Et nous allons accueillir maintenant pour la dernière intervention le professeur Jean-Philippe Reynaud du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Toulouse, qui va nous parler de formation et recherche en psychiatrie des mineurs. Quel avenir pour la discipline ?
Bien, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier les responsables de l'ADESME de m'avoir invité. Ça fait plusieurs années que j'entends parler de l'ADESME, notamment par ma directrice de pôle. C'est la première fois que j'y viens et j'ai trouvé vraiment cette journée extrêmement intéressante. Alors, moi je suis donc dans l'ordre psychiatre pour enfants et pour adolescents, professeur des universités et chef de service au CHU de Toulouse. Voilà, c'est bien. Il y a un message qui s'affiche sur mon... Un message secret qui s'affiche sur mon écran. Je vérifie, il ne s'affiche pas là, donc c'est super. Alors, enfin, il n'y a rien de très secret. Mais... Alors, j'étais assez content de venir à l'ADESME, un peu surpris du sujet qui m'était proposé, sauf que la partie quel avenir pour la discipline me préoccupe beaucoup, beaucoup. Vous allez le comprendre, je vais essayer de vraiment bien tenir le temps. Alors, j'avais écrit au début les trois missions d'un PUPH de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, puis j'ai barré, j'ai marqué les trois missions d'un psychiatre d'enfants et d'adolescents. Elles se partagent entre, évidemment, la clinique, de la formation, nous en faisons tous, au quotidien, et la recherche. Et puis j'ai mis un petit etc. qui regroupe énormément de choses. Et en général, ça se passe plutôt comme ça, c'est-à-dire que la clinique et le etc. Envahissent... assez largement notre temps, et la moitié des pédopsychiatres disent « j'ai pas le temps de faire de la recherche, puis de toute façon c'est pas ma mission première, ma mission première c'est de soigner des enfants et des adolescents », l'autre moitié dit « j'adorerais faire de la recherche, ça m'aérerait, ça me décentrerait, etc. » Mais malheureusement, ce n'est pas rentable, et ce n'est pas reconnu par mon administration, même si on a vu tout au long de cette journée, moi je n'ai pu assister qu'à cette journée, qu'il y avait des administrations qui soutenaient la recherche en pratique professionnelle. Alors, pourquoi c'est un enjeu majeur ? Ben, je pense que c'est les raisons pour lesquelles on m'a demandé de faire cette intervention. Moi, je ne suis pas un chercheur, un grand chercheur. Je me suis rendu compte, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai qu'on a fait une enquête nationale auprès de tous les services universitaires de pédopsychiatrie. C'est très très bien, parce qu'elle date d'il y a 2 mois, donc elle est toute fraîche. Bon, je me suis rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça à Toulouse, avec des moyens assez limités. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de demandes pour la pédopsychiatrie, alors quand je dis beaucoup de demandes, ça veut dire les fameuses listes d'attente dont on nous parle toujours, sur les CMP, aux urgences, etc., mais aussi beaucoup de demandes dans la diversité des demandes. Hein, actuellement, en ce moment, la demande, c'est les enfants et les adolescents qui vont rentrer de Syrie. Enfin, on a ça. Il y a 6 mois, c'était les enfants et les adolescents qui étaient en bas des immeubles, dans les quartiers difficiles de notre ville, de notre département, et qui risquait de se radicaliser. Est-ce que les pédopsychiatres pourraient aller... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on m'appelle de la préfecture pour me dire, est-ce que vous pourriez aller les rencontrer et nous dire s'ils risquent de se radicaliser, ce dont je suis absolument incapable. Alors, ensuite, il y a la demande. Ce matin, les collègues qui ont mis en place un CESAD méthode ABA ont parlé de la demande. C'était assez intéressant parce qu'on confond souvent la demande et les besoins. Donc, il y avait 200 personnes, si j'ai bien compris, que dans les 3 mois, ont répondu qu'elles avaient une demande. Et si j'ai bien compris, il y avait 50 enfants pour lesquels on a estimé qu'il y avait un besoin, et la moitié pour lesquels ce besoin est pour l'instant satisfait. Le manque de pédopsychiatres, alors ça, c'est une réalité. J'ai été auditionné par la mission IGAS de M. Lopez, qui va rendre, je crois, ses conclusions bientôt. Et M. Lopez nous a montré, il nous avait dit qu'il ne fallait pas en parler. Mais comme on est entre nous, entre-temps, c'est paru. Hein, c'est paru dans les APM. Nous montrer que finalement, contrairement à la légende urbaine actuelle, il n'y a pas une baisse drastique, au contraire, du nombre de psychiatres en France. Bonne nouvelle. Par contre, il y a une baisse des psychiatres d'enfants, donc il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de formation, et il y a également, par contre, une augmentation du nombre de psychiatres qui se fait plutôt au profit de l'activité libérale et du privé, et des cliniques privées. Ça, ce sont les chiffres actuels. C'est vraiment très intéressant. Et ce mouvement semble se confirmer pour encore quelques années. J'ai décidément plein de messages terribles. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, il y a un besoin de formation de psychiatres. Alors PEA, c'est psychiatrie ou psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. aussi bien pour le service public ou les établissements qui ont mission de service public, mais aussi le médico-social. Dans mon département, ça paraît très bizarre, mais on a mis très longtemps, les autorités de tutelle ont mis très longtemps à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de psychiatres dans le médico-social et qu'il y avait beaucoup de psychiatres dans le psychiatre d'enfants dans le médico-social. Rien que sur le département de la Haute-Garonne, il y a quelques mois, il y avait 8 temps plein de psychiatres qui n'étaient pas occupés dans les établissements pour enfants et adolescents du médico-social. Pas trop où ça en est, mais je ne crois pas que ça se soit énormément amélioré en 6 mois. Et puis, également, nous avons à former des pédopsychiatres pour le libéral. Dans mon département, qui est un département extrêmement doté en psychiatres privés, si je vous disais les chiffres, vous seriez impressionnés, il n'y en a quasiment aucun qui a une activité de pédopsychiatrie, en tout cas plus que quelques enfants par semaine, alors qu'ils ont été formés. Ils sont pour la plupart titulaires du DESC. Je suis un obsessionnel du DESC. Il y a des PUPH de pédopsychiatrie qui disent, notamment à Paris, qui disent « Oh, pff, le DESC, ils ne sont pas obligés de le passer. L'essentiel, c'est qu'ils aient la formation. » Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis un légitimiste du diplôme. Ça doit être mon côté universitaire. Alors, ma façon de voir, c'est que nous avons besoin de psychiatres de l'enfant et de l'adolescent. Moins nous en avons, et mon point de vue, c'est que moins nous en avons, plus ils doivent être qualifiés en pédopsychiatrie. C'est-à-dire, moins il y en a, plus ils doivent savoir, mieux ils doivent être formés. Ce n'est pas tout à fait cette option qui a été prise ces dernières années, où, à travers des passerelles, à travers des formations complémentaires, un certain nombre de collègues nous ont rejoints. Très souvent, nous en étions très heureux. Certains venaient de la psychiatrie d'adultes, avec laquelle on a quand même énormément de familiarité. D'autres venaient d'autres disciplines ou de la médecine générale. Mais la formation est, du coup, très hétérogène. Alors, quel va être l'avenir de la formation initiale en France? Vous savez que jusqu'à il y a un mois, nous avions un DES de psychiatrie, un DESC de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et que donc depuis un mois, il n'y a plus qu'un seul DES, qui est le DES de psychiatrie générale, et des options, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, psychiatrie du sujet âgé, et d'autres options. Nous avions 2 semestres obligatoires, nous n'en avons plus qu'un, dans le cursus des internes qui vont devenir psychiatres généralistes, comme disait notre collègue tout à l'heure. Et je fais partie des pédopsychiatres qui pensent qu'il est très important que psychiatres d'enfants et psychiatres d'adultes, nous partagions un temps suffisant de formation au développement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée. Le résultat de ça, c'est qu'il va y avoir, dès ce semestre, d'ailleurs on l'a constaté, moins d'internes dans les services, moins de postes d'assistants qui prennent ensuite le relais, et donc une aggravation de la pénurie. Et ça, c'est un des paradoxes de la réforme du troisième cycle qui vient d'être effectuée, qui concerne toutes les disciplines, hein, pas seulement la psychiatrie, c'est d'avoir finalement renforcé la pénurie qu'il va y avoir dans quelques années, encore plus importante qu'aujourd'hui. Une collègue tout à l'heure de Lannemezan me disait « il n'y en a plus, il n'y en aura plus de pédopsychiatres ». Alors, je le redis, le nombre de psychiatres globalement est stable, et je suis aussi convaincu que les psychiatres d'adultes gagnent à avoir une formation d'au moins 2 semestres dans leur cursus, à ce que j'appelle, moi, la psychiatrie du développement, une approche développementale de la psychopathologie. On l'a bien entendu dans l'exposé de Marie-Odile Krebs, on voit bien que nous soignons les mêmes patients et nous soignons les mêmes processus. Alors, la formation initiale, qui en décide? Les ministères, vous avez compris que je suis très en colère contre les ministères, l'université qui applique, avec un emprunt qui est assez impressionnant. Hein, moi, je ne suis plus convoqué à aucune des... Alors, ça dépend des universités. Je ne suis plus convoqué depuis 6 mois à aucune réunion de préparation de l'enseignement, puisque c'est considéré comme étant l'enseignement du DES, que le DESC n'existe plus. L'option n'a pas encore commencé, puisque les jeunes commenceront à choisir dans 1 ou 2 ans. Le CNU, je vais vous expliquer ce que c'est le CNU, c'est un endroit très mystérieux. Le CNUP, qui est une association des universitaires. Les stages, très importants. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des psychiatres dans la salle et des directeurs, c'est ça que j'ai compris, des directeurs d'établissement. Voilà, vous contribuez énormément, bien entendu, à l'accueil de ces internes et à leur fidélisation. Moi, j'appelle ça comme ça. Et puis, la formation initiale des psychiatres, elle se fait beaucoup, et des pédopsychiatres en particulier, par des démarches personnelles. Notre collègue, M. Schmitt, disait ce matin qu'il avait une formation psychanalytique. Je ne suis pas certains qu'il est acquis à l'université. D'autres formations aujourd'hui s'acquièrent, bien entendu, sur des temps de formation. Alors, le CNU, c'est ça, c'est le Conseil national des universités, j'en fais partie. Ça veut dire que nous sommes élus par nos pairs pour représenter les collègues universitaires. Alors, la pédopsychiatrie est une toute petite discipline, dans tous les sens du terme. Elle a, je crois, 80 ans, ce qui, en médecine, est très jeune. Très, très jeune. C'est aussi un petit défaut, c'est-à-dire qu'il y a une certaine immaturité. Elle est née à Paris, d'ailleurs, au passage. Et nous sommes 6 représentants de nos collègues, élus par eux, pour à la fois travailler sur les nominations. Donc, Michel Dunier m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que ça voulait dire, nommer des gens, pour dire si les collègues remplissent les conditions, etc. L'avancement, ce qui est très important, parce que les praticiens hospitaliers avancent à l'ancienneté, les PUPH avancent au mérite. Bon. Une règle qui serait intéressante, c'est de se mettre en conformité avec les autres pays européens. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que d'abord, il y a un problème, c'est que nous sommes tous très favorables à ce que les pédopsychiatres puissent circuler en Europe. Soit qu'on ait envie un jour d'aller s'installer dans un paradis fiscal, soit qu'on ait très envie aussi que des collègues espagnols, allemands, roumains puissent venir travailler chez nous. Or ça, c'est très compliqué aujourd'hui, vous le savez, les directeurs le savent, parce que les diplômes ne sont pas équivalents. Nous n'avons pas les mêmes diplômes. Il y a des pédopsychiatres qui sont uniquement pédopsychiatres, dans à peu près la moitié des pays européens quand même. C'est-à-dire que la pédopsychiatrie est une spécialité dans à peu près la moitié des pays européens. Et dans notre pays, la pédopsychiatrie est une sur-spécialité, selon comment on le considère, de la psychiatrie d'adulte. Donc là, il y a 15 jours, j'étais à Rungis, aventure que je ne recommande à personne, pour examiner la validation des collègues qui sont pédopsychiatres en Italie, par exemple, et qui exercent d'ailleurs depuis plusieurs années déjà dans vos établissements, mais qui voulaient obtenir la qualification officielle pour pouvoir s'installer ou pour pouvoir intervenir comme psychiatre avec un salaire décent. Il y a en Europe l'Union européenne des médecines, des médecins spécialistes, l'UEMS, qui définit les canons. Alors ce sont les professionnels, hein, les syndicats, ce n'est pas les universitaires. Mais c'est assez intéressant de mixer les approches. Par exemple, pour un pédopsychiatre, ils disent qu'il faut avoir au minimum 6 semestres de formation à la pédopsychiatrie et que l'idéal, c'est 8 semestres. Il y a des pays où ça va jusqu'à 10 semestres de formation. Évidemment, quand vous faites 10 semestres de formation, c'est-à-dire 5 ans, vous pouvez vous former, commencer en tout cas à vous former à certaines approches psychothérapeutiques et vous former à la recherche. Ce qui aujourd'hui est absolument très limité dans toutes les universités, sauf peut-être dans quelques services qui sont absolument... Je vais en citer, il y en a deux, qui sont des unités de recherche. Nous avons également l'ESCAP. Alors, c'est un grand plaisir pour moi, parce que c'est moi, là, le monsieur à droite, troisième en partant de la droite. De la droite, oui. Donc je suis toujours très fier de ça, d'avoir 12 copains européens. C'est très, très ça. Alors, l'ESCAP, c'est l'Association européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui fait les mêmes recommandations sur la formation. Elle doit être intense, très spécialisée, très diversifiée, est suffisamment longue. La France, aujourd'hui, ne répond pas aux critères européens de qualification des pédopsychiatres. Donc, à mettre en perspective avec mon message de tout à l'heure, si dans les années qui viennent, nous avons peu de pédopsychiatres, nous devons avoir des pédopsychiatres très qualifiés pour être ressources, experts, tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est fait actuellement, c'est un semestre... Alors, je parle depuis le 1er novembre 2017. Un semestre de formation obligatoire sur 8 dans le cursus de psychiatre généraliste. Une option qui amènera au maximum à 6 semestres de formation. Une formation qui est essentiellement hospitalière, vous le savez. Pour la moitié, avec les nouveaux textes, pour la moitié en CHU. Et des faisant fonction de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et une valorisation. Quand je parle de valorisation, c'est valorisation financière. Je ne parle pas des honneurs et des titres qui peuvent nous être attribués, ça, c'est autre chose, mais financière. Elle n'est pas attractive. Daniel Marcellis soulignait l'autre jour que la pédopsychiatrie est aujourd'hui, en libéral, la spécialité qui est la moins rémunératrice. En libéral. Pour les praticiens hospitaliers ou les praticiens des établissements de santé, heureusement, nous sommes payés comme les collègues cardiologues ou anesthésistes. Alors, ce qu'il faudrait faire, d'après moi, c'est 2 semestres obligatoires, c'est-à-dire revenir à la situation qui était celle du DES de psychiatrie antérieure, un minimum de 6 semestres qui était la situation du DESEC auparavant, y inclure la formation à la recherche, je viendrai tout à l'heure sur l'importance de cette formation, et former davantage les futurs pédopsychiatres hors de l'hôpital et des CHU, en particulier dans le médico-social, dans les cliniques privées, en pédiatrie ou dans les cabinets et en PMI, ce que nous faisions à Toulouse, ça dépendait uniquement de la volonté du coordonnateur, c'est-à-dire de moi, tous nos internes avaient la possibilité de se former en PMI, en pédiatrie, etc. Dans la nouvelle version du DES, ça sera optionnel. Je ne suis pas un dictateur, je ne crois pas, mais un peu quand même. Voilà, les internes n'avaient pas le choix. À Toulouse, ils devaient aller passer 6 mois en pédiatrie, ce qui, je pense, ne choquera personne pour des gens qui vont s'occuper d'enfants et d'adolescents. Davantage également de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec une formation complète, recherche et psychothérapie. Et puis, je fais partie des pédopsychiatres qui pensent qu'il faut revaloriser l'acte. Et j'ai mis entre parenthèses partout, parce que c'est d'ailleurs une proposition que j'ai faite à l'IGAS. C'est-à-dire qu'en Suisse et en Belgique, ça a été fait. L'acte est aujourd'hui payé le triple de ce qu'il était payé avant. Étonnamment, on a vu un afflux de pédopsychiatres qui se sont installés en libéral. Évidemment, à 92 euros la consultation, la durée, la complexité, le nombre de liens qu'il faut faire est reconnu. On a vu réapparaître. Le risque, c'est ce qui m'a été d'ailleurs renvoyé par un conseiller de la présidence, c'était qu'il y a une fuite des pédopsychiatres, des hôpitaux, vers du médico-social, vers le privé. Alors, ce que a proposé un collègue qui travaille à l'ARS d'Île-de-France, c'est de valoriser partout. C'est-à-dire que l'acte soit valorisé aussi dans les hôpitaux, dans les endroits, dans les CMPP, etc., pour que nos directions se réjouissent. On a parlé ce matin du RIMSI et de ce que pouvaient rapporter éventuellement nos actes. Je pense qu'on deviendrait plus intéressant pour nos établissements si nous rapportions 3 fois plus lorsque nous faisons des consultations. Bien sûr, hors CMP, puisque dans les CMP, vous le savez, nous sommes en dotation globale. Mais là, je parle des consultations hospitalières. Alors, ce qui est déjà... Alors, ça, c'est la période s'y prête. C'est très sérieux, ce que je prends ça très au sérieux. Mais la période s'y prête, dont je me suis dit que je ne savais pas trop qui était dans la salle, une lettre au Père Noël pouvait toujours être lancée et que peut-être il y aurait des retombées. Alors, ce qui est déjà fait, qui doit être intensifié, c'est que chaque faculté de médecine, j'espère que vous êtes à peu près convaincus, doit avoir un professeur de pédopsychiatrie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 facultés en France qui n'ont pas de professeur de pédopsychiatrie. Alors, on peut discuter sur la qualité, les personnalités, le narcissisme des PUPH de pédopsychiatrie, mais enfin, quand il n'y en a pas, ce dont on est à peu près sûr, et on le constate, à Limoges, aujourd'hui, il n'y a pas de PUPH de pédopsychiatrie. Il y a eu, cette année, un interne qui s'est formé à la pédopsychiatrie, enfin, qui est devenu pédopsychiatre. Je ne vois pas comment Limoges va pouvoir s'en sortir, en admettant que cet interne reste à Limoges. Il y a plusieurs villes que je ne vais pas citer qui n'ont pas de PUPH. Deuxièmement, ce qui est fait aujourd'hui, que nous faisons pas mal dans notre région, c'est les postes d'assistants partagés, et en continuité, ça peut être des postes de praticiens partagés. Poste d'assistant partagé, ça veut dire que l'assistant, il est 4 demi-journées dans un service de Toulouse, puisqu'à Toulouse, beaucoup de nos internes veulent rester à Toulouse. C'est une grande ville, il y a l'université, il y a des grands magasins, il y a la culture, je ne sais pas pourquoi ils veulent rester à Toulouse, place du Capitole, voilà. Mais en tout cas, ils acceptent, pour un certain nombre d'entre eux, pendant 2-3 ans, d'aller 3 jours par semaine en périphérie. On l'a fait avec Montauban, on l'a fait avec l'Aveyron, on est en train d'essayer de le faire avec les collègues de l'Ariège, je ne sais pas s'ils sont encore là. Ça marche, on l'a fait avec le Gers. Et en général, on le fait de façon provisoire. C'est-à-dire que l'assistant vient apporter un renfort, un peu de jeunesse et un peu de dynamisme aussi, tant qu'il y est. Et puis, finalement, des PH reviennent. Ce sont en général des services qui manquent qui ont 5-6 postes de praticiens hospitaliers, parmi lesquels plus de la moitié est inoccupée. Évidemment, ça pose des questions à la fois de fonctionnement, mais d'attractivité. Vous n'avez pas envie de devenir praticien dans un service où il faut faire une garde 1 jour sur 2. Ça, c'est pas possible. Une astreinte 1 jour sur 2. Donc ça marche bien. Avec aussi un principe, qui est le principe que j'applique et auquel je crois beaucoup, c'est qu'il y a encore énormément de compétences dans les secteurs de pédopsychiatrie des régions et qu'il faut se dépêcher d'aller apporter des renforts parce que dans quelques temps, ces compétences, elles vont plus ou moins disparu. À cause notamment du vieillissement de notre profession. Voilà, toutes les compétences du territoire, de mon point de vue, doivent participer à la formation. Tous les collègues n'ont pas envie de venir faire des cours en amphi, je sollicite régulièrement les collègues pour venir faire des cours dans les DU. Il y en a qui font des supervisions, il y en a qui font des... bien sûr, ils encadrent les étudiants dans les stages. Et puis, je crois que dans l'avenir, ça a été un peu évoqué ce matin, il y a toutes les questions du e-learning et de la télémédecine qui vont nous permettre peut-être aussi de... sans avoir besoin de nous déplacer, de passer la journée, dont la moitié de la journée en voiture, pour pouvoir communiquer avec nos collègues des départements les plus tranquilles, on va dire. Ça a été évoqué ce matin, je crois, par vous, monsieur, les pratiques avancées. C'est quelque chose, le cadre supérieur de notre pôle travaille beaucoup sur cette question des pratiques avancées, c'est-à-dire comment un infirmier peut à la fois être formé et être en première ligne, à la fois pour des actions de dépistage, de diagnostic, mais aussi de soins, et à la fois aussi, la question, c'est comment il peut être reconnu au sein de l'institution et financièrement. Ça, c'est assez compliqué. On a étudié, on a fait une étude, ça fera le lien avec la recherche, sur les pratiques avancées avec les adolescentes anorexiques. On a étudié pour les anorexies, alors je ne sais pas si ça vous parle, ça, parce que c'est une drôle de façon de dire, ce que nous appelons les anorexies simples. Les anorexiques, par exemple, qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, qu'on peut suivre en ambulatoire, où il n'y a pas de comorbidité psychiatrique compliquée, pas d'urgence compliquée. On a étudié, on a comparé, ça aussi c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, ce que ça donnait quand un infirmier est bien formé et intégré au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce que ça donnait quand c'était l'infirmier qui suivait ses anorexiques, hein, comme on fait classiquement au début toutes les semaines, toutes les trois semaines, peser, entretien, etc. Et quand c'était un médecin. Et on s'est aperçu que les résultats étaient tout à fait équivalents. Donc le pédopsychiatre, dans ces cas simples, n'apportait pas forcément une plus-value, alors que donc il pouvait se consacrer aux cas complexes d'anorexie, que vous connaissez, résistante, avec des comorbidités, des troubles de la personnalité compliqués, des milieux familiaux compliqués, etc. Ça, je crois que c'est vraiment l'avenir, hein, pour nos pratiques, à condition, je le redis, que ces postes soient intégrés dans des équipes de pédopsychiatrie, dans lesquelles il y a encore des pédopsychiatres qui puissent, c'est pas la question de coordonner ou d'expertiser, etc., mais qui puissent apporter leur participation à ce qu'on a vu ce matin dans l'exposé de Laurence Carpentier, les RCP, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, où un professionnel, s'il n'est pas sécurisé, s'il pense qu'il ne sera pas épaulé, il ne va pas s'engager.
Il vous reste un peu moins de 10 minutes.
Allez, je vais accélérer. Voilà. Et puis j'insiste aussi sur l'accès à la formation tout au long de la carrière, parce que nous, les universitaires, on croit toujours qu'il n'y a que nous, hein, qui pouvons former, qu'il n'y a que nous qui pouvons semer du savoir. Et en fait, on peut se former, bien entendu, tout au long de la vie, et pas forcément à l'université. Ce qui doit aussi être intensifié, qui existe déjà, c'est l'attractivité des dispositifs en les faisant évoluer. Je trouve que les exemples qui ont été donnés ce matin sont excellents, parce qu'on voit bien comment les dispositifs... moi, je vais jusqu'au CMP, je vais jusqu'aux hôpitaux de jour. Hein. Les dispositifs, il faut les faire bouger. Les jeunes praticiens aujourd'hui, ce qui nous renvoie, je fais partie du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et on discute beaucoup avec les jeunes PH qui nous disent, voilà, nous, ce qui est insupportable pour nous, c'est de travailler en région parisienne ou dans n'importe quelle région et d'avoir un an d'attente pour démarrer les soins avec les enfants que nous voyons. C'est-à-dire que nous sommes déjà démoralisés avant même d'avoir commencé à faire nos actes de soins, de diagnostic, etc. Donc il faut modifier les pratiques, il faut avoir des réflexions sur les plateformes d'appui, sur les pratiques avancées qui peuvent faciliter les choses. Donner la priorité à l'activité clinique tout en établissant des priorités, des parcours régulés. Alors je sais que ça ne fait pas très soignant, ça ne fait pas très bienveillant, ce n'est pas très politiquement correct de dire qu'il faut établir des priorités, et qu'il faut dire sur quelles priorités doivent se positionner les pédopsychiatres. Et sur quelles autres priorités on peut positionner d'autres professionnels et les réguler. Mes collègues de la Haute-Garonne savent que c'est mon dada, de dire voilà, on régule, on grade, on essaye de voir comment on peut ne pas forcément embouteiller des structures les plus complexes. Puis aussi, ça c'est un petit message qui ne concerne personne ici, bien sûr, sortir de la logique dépassée de la compétition entre disciplines et entre modes d'exercice. Voilà. Là, c'est très compliqué actuellement. On a des discussions au niveau universitaire entre psychiatres d'adultes, psychiatres d'enfants. Oulala, s'il y a un psychiatre universitaire dans toutes les villes, est-ce que ça ne va pas enlever des postes, etc. Là, on est au degré zéro, je pense, de la réflexion et de la pensée. Je fais confiance à tout le monde, à moi en premier, pour essayer d'en sortir. Voilà. Autre chose qui marche bien aussi, c'est de se former ensemble. Ça a été un peu dit aussi ce matin dans les dispositifs de formation qu'évoquait Laurence Carpentier. C'est-à-dire on se forme tous. Et on essaie d'avoir une formation homogène, même si chacun, bien sûr, doit avoir ses responsabilités et son rôle. Alors, la recherche, je vais aller très vite. Même chose, hein, vous voyez que la recherche, elle est portion congrue dans mon petit schéma très approximatif. Alors, quels sont les freins? Le premier frein, c'est que les pédopsychiatres, ils adorent la clinique. On ne va quand même pas le leur reprocher. C'est-à-dire que moi, mes jeunes étudiants et mes jeunes PH, ils me disent, ah, mais nous, on veut bien faire une petite recherche de temps en temps. Alors, ça, c'est assez amusant parce que voilà, ça serait comme on fait de temps en temps un footing. Hein. Mais, or, la recherche, ça demande quand même de l'entraînement. Ça demande de l'endurance et de l'entraînement. Et par contre, ils adorent la clinique. Voilà. Ce que je fais, ça me plaît beaucoup. J'adore voir des enfants, j'adore travailler en équipe, j'adore le travail institutionnel. Et ça, finalement, c'est un frein. Le manque de formation à la recherche, j'y reviens pas. faut qu'elles soient absolument intégrées à la formation initiale pour leur donner le goût à la recherche. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui font des masters, bon, ils avaient certainement une appétence au départ, mais ils la développent. Et ensuite, ils continuent à faire de la recherche. Et puis, quelques malentendus sur ce qu'est la recherche. Je ne m'y attarde pas trop, mais juste un mot sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, qui en France a eu quand même, et en pédopsychiatrie, c'est peut-être moins le cas en psychiatrie d'adultes, mais en pédopsychiatrie, la médecine basée sur les preuves a déclenché des réactions extrêmement complexes. Vous avez vu ce matin qu'une recherche sur les pratiques intégratives peut avoir les critères de la médecine basée sur les preuves. Ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément de moyens. Ça a un effet, indéniablement. On a vu que ce n'était pas que des effets négatifs. Ça a un effet sur la clinique, mais c'est tout à fait important. J'avais fait un schéma qui est un schéma absolument simpliste pour montrer comment ça se passe. C'était juste pour vous montrer qu'à partir d'une question clinique, et moi je pense qu'il faut toujours partir d'une question clinique, hein, c'est-à-dire sinon la recherche, ça ne marche pas. Si on ne se pose pas une question, qu'on a envie d'y répondre et de se mobiliser, si la question elle vient d'ailleurs, de l'État ou des chercheurs fondamentalistes, ça ne marche pas. Et on arrive à la valorisation et en retour, on a un bénéfice, ça a été très bien décrit ce matin, on a un bénéfice sur le travail clinique. La pire des recherches, c'est Peter Fonagy, qui est un des spécialistes de l'attachement, des thérapies basées sur la mentalisation, qui a montré que ces 10 dernières années, il y avait eu une douzaine d'études en evidence-based medicine sur l'anorexie mentale chez l'anorexique. Aucune n'est appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire que les moyens, elles ont été démontrées, la plupart a été démontrée comme étant efficaces. Mais les moyens que demande l'application de ce qui était mis en place dans ces recherches ne sont pas accessibles dans le tout venant. Dans le travail au quotidien que nous faisons. Alors, ce n'est pas la peine de faire des recherches comme ça si ensuite on n'a pas les moyens de les appliquer. Il vaut mieux faire des choses plus modestes. Juste pour vous montrer que ça, c'est la fameuse étude que nous avons fait, l'enquête, hein, pour montrer. Donc ça, c'est l'enquête du CNU. On a demandé à tous les universitaires de pédopsie, nous sommes une trentaine, ça doit représenter peut-être une vingtaine de services, 20-22 services en France. C'est très peu, hein. C'est très très peu. Trois fois plus d'universitaires d'adultes. Donc peu de moyens investis dans les 5 dernières années par les organismes nationaux de recherche officiels, INSERM, CNRS, pour ne pas les nommer, hein, c'est-à-dire qu'ils ne nous soutiennent pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Malgré tout, des résultats que nous, on ne trouve pas trop mauvais, hein, une moyenne de 31 articles par équipe dans des revues internationales et de 23 dans des revues nationales. Alors, évidemment, il y a des équipes, vous le voyez, qui publient 5 articles en 5 ans et une équipe qui publie 172. Il y a une disparité assez importante. Mes collègues de Toulouse, je vous rassure, nous sommes dans la moyenne. C'est pas glorieux, mais c'est pas indigne. Voilà, ça, c'est notre Bible. Il faut que nos revues soient classées dans Medline pour qu'elles soient reconnues comme étant d'un niveau de scientificité suffisant, et ensuite qu'elles rapportent à travers ce qu'on appelle la base SIGAPS, des points SIGAPS qui, au passage, sont valorisés financièrement pour vos établissements. Après, ça n'est pas très simple, parce qu'en plus, la base de SIGAPS en psychiatrie, elle n'a pas été réactualisée depuis des années. Pour vous donner un exemple, une revue comme la revue Autisme, qui est la revue internationale sur l'autisme, hein, c'est celle à laquelle se sont référées ce matin toutes les personnes qui ont parlé de science, en parlant de certaines approches, la revue Autisme n'est pas indexée, est indexée bien entendu sur Medline, mais n'est pas indexée par SIGAPS. La revue Transcultural Psychiatrie, la psychiatrie transculturelle, une des rares revues dont on a bien besoin par les temps qui courent sur l'interculturel, qui est une revue à 3 ou 4 points d'impact factor dans PubMed, n'est pas reconnue, n'a pas été, il y a 4 ou 5 ans, mise sur la liste des revues de psychiatrie, bien que le mot psychiatrie apparaisse dans le titre. Voilà, je passe sur les thèses, mais c'était juste pour dire que les thèses qui sont les plus reconnues aujourd'hui, ce sont les thèses, ce n'est pas forcément les thèses de médecine, même si les thèses de médecine peuvent avoir beaucoup d'intérêt pour la recherche au quotidien, ce sont les thèses de sciences, ou les thèses en psychologie, ou les thèses dans d'autres disciplines. Et donc, il y a eu 87 thèses qui ont été dirigées par des universitaires de pédopsie. Quant au financement, c'est la conclusion qu'il faut lire surtout. C'est émiettement préoccupant des financements. Il n'y a jamais eu de PHRC, de programme hospitalier de recherche clinique, avec une thématique psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Allez, on fait une lettre au Père Noël. On va essayer de faire en sorte que l'année prochaine, le PHRC pour thématique la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, je passe sur les équipes d'accueil, ça n'a pas un grand intérêt. Ça va vous intéresser beaucoup plus. Ça va intéresser aussi Michel Dunia. Les grandes thématiques de ces équipes de recherche, périnatalité arrive en tête avec la petite enfance, l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, les vulnérabilités, les transitions à l'adolescence. Enfin, les gens qui ont fait le programme de ces journées, ils sont bons, hein, parce que ce sont tous les thèmes qui ont été abordés ces jours-ci. l'éthique et les sciences humaines, les nouvelles technologies, on vient d'en entendre parler, l'épidémiologie développementale, c'est l'intitulé de notre unité INSERM chez nous, les méthodes qualitatives, ça aussi c'est très intéressant, c'est le grand retour des méthodes qualitatives en complément des méthodes quantitatives. Ça c'est très intéressant. Marie-Rose Moreau, que vous avez entendu dans le cadre de ce colloque, est une des grandes spécialistes des méthodes qualitatives. L'avenir pour les thématiques de recherche, ça c'est mon point de vue. La prévention, oui, la pédopsychiatrie doit s'impliquer dans la prévention, parce que les équipes de pédopsychiatrie ont leur mot à dire sur la prévention. Alors prévention et dépistage précoce, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la schizophrénie de l'adolescent. Les pratiques avancées, on en a déjà parlé. La transformation des pratiques, hein, c'est-à-dire comment on change les pratiques. On a un projet dans notre région sur le lien entre les psychiatres d'adultes qui soignent des adultes avec des troubles mentaux graves et les psychiatres d'enfants qui peuvent s'intéresser très tôt aux enfants de ces adultes avec une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Voilà. Autre point, ça a été dit beaucoup aujourd'hui, collaborer. Collaborer, c'est le lien. Alors, en Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées, Occitanie, nous avons mis en place deux systèmes de collaboration sur la recherche. Un qui est très CHU, vous le voyez ici, c'est l'Institut des handicaps neurologiques, psychiatriques et sensoriels. Alors, juste pour le gag, on l'a appelé OPS. Alors, vous allez vous dire comment on a réussi à faire un acronyme. OPS comme espoir, hein, avec handicap neurologique, psychiatrique et sensoriel. On a remplacé les neurologues, comme quoi les neurologues, des fois, ils sont pires que les psychiatres, quand même, hein, si on cherche bien. Ils ont remplacé neurologique par cognitif, et ils ont dit, ben, on prend le O de cognitif, et ça fait OPS. Vous voyez qu'on n'est pas si compliqué que ça, les psychiatres. Nous, on a pris le P, ça fait ça. Et vous avez ici la liste de tous les métiers. Alors, ce qui est très important, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va de l'enfance à l'âge adulte. On ne l'avait jamais fait. Dans le deuxième CHU de France, on n'avait jamais eu l'idée qu'on pouvait mettre autour de la même table les gens qui s'occupent d'enfants, les gens qui s'occupent d'adultes, les gens qui s'occupent de personnes âgées, et les gens qui s'occupent de neurologie, les gens qui s'occupent de handicap sensoriel, les gens qui s'occupent de psychiatrie, etc. Bon, on l'a fait depuis 2 ans, et comme par hasard, les collaborations et les projets de recherche sont en train d'exploser. Et on a fait aussi un autre type de collaboration, ça s'appelle FEREPSY, on ne voit pas bien. C'est une fédération de recherche régionale en psychiatrie. Et là, vous voyez que c'est très différent. Mais les partenaires, ce sont tous les établissements de la région qui se sont associés. Le premier travail de recherche qui a été mis en place, il est sur la contention physique en psychiatrie d'adultes. Derrière va suivre aussi un travail sur ce thème, certainement sur la psychiatrie de l'adolescent et de l'enfant. Et tous les établissements de la région participent. Alors, pour ceux qui font de la recherche, ça veut dire qu'au lieu de faire une étude sur 20 patients, on peut faire très rapidement une étude sur 200, 300, 400 patients, avec bien sûr un travail d'homogénéisation. Je vais terminer. Alors mes messages, c'est qu'il faudrait former davantage de pédopsychiatres, vous l'avez compris, je suis un obsédé de la chose, les former mieux, les former plus juste, sans paraphraser personne, rendre plus attractive et sécurisante la profession. Je pense que nos pédopsychiatres, ils ne viendront pas travailler dans nos équipes s'ils se sentent des pédopsychiatres alibi, isolés, abandonnés, enfin je ne sais pas. Développer les pratiques avancées, ça fait 4 fois que je le dis, donc je pense que j'ai vraiment insisté là-dessus. Développer les partenariats avec les psychologues, vous avez eu un exposé de Marie-Rose Moreau, les psychologues, en particulier les psychologues libéraux, sont au cœur des projets. Développer la recherche en soins infirmiers et la recherche des professionnels non médicaux. Il y a des programmes de recherche entiers aujourd'hui qui sont consacrés à ça. Il y a des financements qu'il faut utiliser parce que nos infirmiers, nos cadres de santé, nos psychologues, nos orthophonistes, nos psychomotriciens peuvent développer des programmes de recherche. Et si j'ose dire, c'est comme dans du beurre. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de propositions que leurs projets seront probablement soutenus. Et puis, un petit mot pour les administrateurs, ce que nous appelons, nous, l'administration, quand on est en colère. On dit, ouais, c'est l'administration qui ne fait pas son boulot, etc. Voilà, il ne faut pas oublier dans la recherche, et dans l'enseignement peut-être aussi d'ailleurs, d'impliquer les directeurs, les cadres supérieurs, les cadres de santé, etc.
Voilà. Vous avez rajouté la phrase aujourd'hui, parce que c'était une présentation à l'ADESM, c'est ça ?
J'ai pas entendu.
Vous avez rajouté la phrase aujourd'hui, parce que c'était une présentation à l'ADESM.
J'ai une relation extrêmement apaisée avec nos directeurs. Je vous remercie.
Bien, merci.